de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 10 octobre 2001 à Saint-Gildas.
Il y a une question. Père, nous savons que l'âme spirituelle de l'homme est aussi sa substance, principe de son être. Alors vous voyez bien la différence. Quand vous parlez de l'âme, vous en parlez comme d'un principe de vie. Quand vous parlez de la substance, vous en parlez comme un principe d'être. Parce que notre intelligence a cette possibilité d'abstraire, l'abstraction formelle, c'est de voir que la connaissance que nous avons de la vie n'est pas la même que la connaissance de l'être. C'est pas la même chose de regarder mon voisin comme un vivant ou le regarder comme un être. J'espère que vous voyez la différence. On passe d'une connaissance formelle. On regarde tout sous le point de vue de la vie. Un biologiste regarde tout sous le point de vue de la vie en tant qu'elle est expérimentable. Et toujours l'expérience est là. Regardez un médecin, comment il vous inspecte. Il regarde tout ce qui est expérimentable. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça vous... Et vous répondez. Le dialogue est sur un terrain sur lequel on essaie d'arriver à connaître. Lui, il ne connaît pas. Il pose des questions pour voir quel est ce terrain. Il va essayer de détecter la source. Où vient le mal? Y a-t-il une cause propre du mal? C'est la grave question. Le mal est une privation, donc il ne peut pas être cause. Vous voyez? Alors on essaie de voir d'où vient la cause. Et quand on a touché la cause, on peut y remédier. Il faut réfléchir un peu sur vos connaissances. Si vous avez déjà été loin en connaissance biologique, vous voyez bien que le médecin, la biologie, se situe au niveau expérimental. Le philosophe, lui, recherche l'âme. Et seul le philosophe cherche l'âme. Le biologiste ne cherche pas l'âme. Il constate ce qu'il peut expérimenter. Et le philosophe cherche... Pourquoi le philosophe cherche-t-il ça? Chercher la vie, ce n'est pas chercher l'être. Chercher l'être d'une réalité, c'est beaucoup plus vaste et c'est beaucoup plus profond. En tant qu'être, je suis parent avec l'araignée. Hein? L'araignée vit et elle est un être. En tant que vie, je suis aussi parent avec elle. Mais la différence est plus immédiatement saisissable. L'araignée vit de telle façon et vous vivez de telle autre façon. Vous avez des mœurs vitales différentes que celles de l'araignée. J'espère, tu vois. Il y a des gens qui ont des styles d'attaque à l'araignée. Ils attendent, ils posent des pièges, puis ils attendent. C'est comme ça qu'ils font. Quand un gendarme vous pose des cols, il est comme une araignée qui l'attend. Il vous pose une question. Ah, vous répondez comme ça. Il y a quelque chose. Il y a un moustique qui est pris. Réfléchir sur la manière dont les gens pensent, la manière dont vous pensez. Vous pensez autrement quand vous essayez de faire de la philosophie. J'espère, du moins. Vous pensez. Le philosophe essaie d'éduquer la pensée. Les cours de philosophie, c'est pas autre chose que ça. C'est vous éduquer à penser, à réfléchir et à penser à un degré auquel la plupart des personnes ne pensent pas. C'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de la métaphysique? Vous iriez loin pour trouver quels sont ceux qui font de la métaphysique. Pensez au niveau de l'être. Alors, au niveau de l'être, vous saisissez l'être, premièrement, par le jugement d'existence. Ceci est. Même la pierre existe, la terre existe, la lune existe. Et quand les cosmonautes ont été dans la lune, ils ont cherché s'il y avait la vie. Ici, vous la trouvez tout de suite, la vie. La preuve, c'est que si vous allez pieds nus dans un endroit et que vous restez au bout d'un certain temps, vous avez des petites bêtes qui viennent vous mordre. Vous apercevez que la vie existe. Heureusement, il y a la vie. Et la vie se manifeste de façon extrêmement variée. La fantaisie du Créateur, c'est fou. Dieu a pensé à toutes ces petites bêtes. Il leur a donné un style de vie. Pas directement, puisque Dieu n'a pas créé directement l'araignée. Dieu n'a pas créé directement le moustique, non. Il y a les causes secondes. L'araignée provient d'une araignée mère, et d'une araignée grand-mère, et d'une araignée sur-grand-mère. Non. Et c'est ça. Alors vous pouvez remonter comme ça, indéfiniment. Vous n'arriverez jamais à la première. Et vous avez vous aussi la vie. Il y a des mœurs communes entre l'araignée et l'homme. Il y a quelque chose de commun. On trouverait des gens araignées. Oh, très bien. Dont le style de vie est très araigné. Parce que l'araignée, c'est instinctif. Elle a ça parce qu'elle a reçu ça de sa mère. C'est instinctif. Et la mère peut disparaître, il continue. Et elle engendrera dans son araignée. Et le style araignée continuera. Jusqu'au moment où on aura marre des araignées, puis on fera une campagne contre l'araignée, et l'araignée disparaîtra. Bon. Faut... Alors, père, nous savons que l'âme spirituelle de l'homme est aussi sa substance, principe de son être. Donc l'âme, c'est au niveau de la vie qu'on la pose. Puis ensuite, au point de vue métaphysique, je dis qu'il y a dans l'homme une substance. La substance et l'âme, c'est pas la même chose. Mais pour l'homme, l'âme est une substance. On va expliquer ça, c'est très important. Qu'en est-il des animaux? Vous voyez, les araignées, c'est des araignées. Les crapauds, le lion, par exemple. Des plantes et des réalités non vivantes. Bon, elles n'ont pas de substance. Je crois qu'il faut être très, très net là-dessus. Le mot substance, c'est un principe d'être. Principe formel, principe selon la forme de ce qui est. C'est comme ça que vous pouvez préciser ce que c'est que la substance. C'est le premier, c'est quelque chose qui est premier dans l'ordre de l'être. Or, l'araignée, sa vie n'est que dans son devenir. Elle a une nature. araignée, une nature, ça c'est sûr. La nature araignée. Vous pouvez préciser exactement, du moins préciser ce qu'est cette petite bête. La différence de la mouche. Pas seulement parce que la mouche vole et que l'araignée ne vole pas, heureusement. Hein, les araignées. L'araignée, elle fait son chemin et elle tisse des toiles d'araignée. Tandis que la mouche ne tisse pas des toiles d'araignée. Et vous essayez de préciser la nature différente. Vous voyez, la nature, c'est un principe de mouvement, principe d'opération. Tandis que la substance est principe d'être. Or, l'araignée, son être n'est que dans le devenir. Elle vit un certain temps. Sa vie est dans le devenir. Elle n'a pas d'âme. Est-ce que l'animal a une substance? Est-ce que son âme est aussi sa substance? Oui. Alors, vous pouvez parler d'une âme de l'araignée. Vaut mieux pas, du reste, parler de l'âme d'araignée. Il faut dire tout simplement que l'araignée a une nature. Si vous parlez très précisément, vous direz qu'elle a une nature. L'âme est réservée à l'homme. Je sais très bien que pour Aristote, on parlait de l'âme de l'araignée, c'est-à-dire la nature. Il vaut mieux dire nature. Nature, principe de devenir. Principe d'opération vitale. Chaque animal a sa spécialité. Son caractère est dans son opération. Il marche ou il vole. Et il marche à quatre pattes ou à deux pattes. C'est une très grosse différence. Et puis, il pique ou il ne pique pas. Et vous regardez ça par rapport à l'homme. Hein ? Parce que vous êtes incapable de vous mettre dans le régime araignée. Pour regarder une araignée comme une autre araignée regarde une araignée. Ça, vous pouvez imaginer des tas d'histoires, mais vous ne savez pas exactement comment l'araignée regarde l'araignée. Au fond. Elle est la seule qui peut connaître l'araignée d'une connaissance code naturelle. Vous n'avez pas de code naturalité avec l'araignée, sauf dans votre caractère. Alors, dans votre caractère, vous pouvez avoir des codes naturalité avec l'araignée. Il y a des gens qui aiment de piquer. C'est leur plaisir de piquer. Ils attendent le bon moment dans les conversations. Il y en a plusieurs. Il y en a toujours un muet qui regarde. Alors quand c'est comme ça, quand vous avez plusieurs, ah voilà l'araignée, il regarde. Il a tissé sa chose, il attend que vous tombez dedans. Et au moment où vous tombez dedans, pique. Il fait ça admirablement. Et il a un style araignée. Bon, mais quant à votre corps, quant à votre vie, l'araignée ne joue pas, mais point de vue caractère. Alors, dites, pas de substance chez l'animal. La substance est réservée à l'homme qui vit, qui existe au-delà du devenir. L'âme immortelle. Bon, alors, évidemment, quand vous dites l'âme immortelle, ça prouve que l'âme n'est pas toujours immortelle. Alors c'est pour ça qu'on dit âme pour l'animal aussi. Parce que l'animal a une opération vitale qui relève de son âme. Alors, je veux bien, il suffit de le savoir. Mais normalement, garder le mot âme pour l'homme, c'est mieux. Parce que aujourd'hui, on ne parle plus de l'âme de l'animal. est-ce que la plante a une substance? Non. Il faut mettre le mot nature là. Nature, c'est principe d'opération. Or, la plante a sa manière de devenir, sa manière de pousser. Et chaque plante pousse différemment. Vous n'avez qu'à faire dans votre cellule la culture de telle plante, de telle autre plante. Vous verrez bien qu'ils ont des natures différentes. Chaque plante a sa nature. Et il y a des natures très pareilles. Alors, vous voyez, on a nature, principe de vie. Substance, principe d'être. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, l'araignée, elle est, mais son être est toujours dans le devenir. Puisque elle n'existe que dans son devenir. Elle n'a pas d'être en dehors de son devenir. Elle reste à ce niveau horizontal. Est-ce que les réalités non vivantes ont une substance? Non. Alors, je reprends au point de vue métaphysique. La métaphysique, c'est la recherche de ce qui est en tant qu'être. Donc, c'est la distinction entre l'être et le devenir. Qui est une distinction qui a mis très longtemps à bien préciser et qui aujourd'hui, hélas, on ne la fait plus. Ah, le devenir, tout le monde regarde le devenir, mais l'être, on ne sait pas. Il faut faire grande attention quand vous travaillez par exemple à Lyon, dans une faculté ordinaire, il faut faire attention au langage que vous avez ici, qui est un langage aristotélicien, qui est le langage que nous devons connaître pour comprendre Thomas d'Aquin. Si on ne sait pas ça, parce que le théologien se sert de la philosophie. Et la théologie qui se sert d'une philosophie platonicienne ou d'une philosophie hegélienne ou d'une philosophie aristotélicienne, la théologie est différente, totalement différente. Et quand vous avez devant vous un théologien, cherchez à comprendre la philosophie dont il se sert. Déjà dès maintenant. Parce que un théologien qui se sert d'une philosophie idéaliste, nécessairement, sa théologie ne sera plus correcte. Il ne verra pas de distinction entre ce qui est et ce qui peut être. Le possible et l'être seront considérés comme identiques. L'être et la vie seront considérés comme identiques. Il ne fera pas de différence entre être et vie. Faire la distinction entre être et vie, c'est une distinction qui est déjà très délicate. Hein, c'est votre intelligence qui peut faire ça. Quand vous dites « ceci est », et quand vous dites « ceci devient », c'est pas la même chose. Vous faites spontanément cette distinction. Quand vous avez mis un oignon dans la terre, vous attendez qu'il pousse. Et vous savez bien qu'il est. Mais vous attendez qu'il pousse. Le devenir, pousser. Alors, en métaphysique, on considère tout sous le point de vue de l'être. Aristote dit to en eon. To en, ce qui est en tant qu'il est. Et en tant qu'il est. C'est ce regard propre du métaphysicien. Et le métaphysicien cherche Y a-t-il une cause propre, matérielle de l'être ? Il n'y a pas de cause matérielle de l'être. La matière est source du devenir. Et donc, il n'y a pas de cause propre de l'être au point de vue matériel. La matière, c'est toujours le devenir. Mais si vous avez un petit peu le sens de, je ne sais pas, de la menuiserie, vous savez bien que c'est une chose matérielle qui est changeable, transformée. On peut la transformer. Une chose qui n'est pas matérielle, ah, c'est très difficile de la changer. Pour chercher la cause formelle de l'être, la cause formelle, c'est la détermination. Et vous voyez que la cause formelle de l'être, c'est la substance. C'est la détermination fondamentale d'un être. Quelle est votre cause formelle ? C'est votre âme. C'est pas votre corps. Votre corps, il est source du devenir en vous. Vous voyez ? Depuis le petit enfant, hein, au moment où vous êtes né, et maintenant, il y a quand même une petite différence. La différence quantitative est nette. Hein. Et la différence au point de vue vital, elle est nette aussi. Quand vous étiez tout petit, ben oui, un enfant, il vit en pleurant et en riant, en dormant. Il vit comme ça. Il passe sa vie à dormir et à être éveillé et à sourire. Et parce qu'il passe sa vie à dormir et à sourire, il est sage. Cet enfant est très sage. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas de misère à sa mère, et qu'il dort bien, et qu'il sourit bien. Alors il est admirable. Mais vous continueriez d'être comme ça, on dirait pauvre. Son intelligence n'est pas éveillée. Elle s'est éveillée uniquement pour le sourire. Parce que c'est l'éveil de l'intelligence, le sourire. On sourit à quelqu'un qui vous sourit. Il y a une relation. Mais le petit singe ne sourit pas. Je vous ai déjà dit, quand vous êtes devant des gros singes en Afrique, et que vous riez en face d'eux, ils deviennent méchants. Parce que vous faites quelque chose qu'ils ne peuvent pas répéter. C'est pour ça qu'on dit que sourire est le propre de l'homme. Le petit enfant sourit. Et c'est pour ça que la mère attend le sourire de l'enfant. Elle fait sourire l'enfant. Ça, c'est l'éducation maternelle qui est liée au sourire. Parce que le sourire, c'est la détente. Vous ne souriez pas quand vous êtes tendu. Quand il y a quelque chose qui vous prend, qui est très embêtant, très ennuyeux. Vous attendez le gendarme, très ennuyeux. Vous l'attendez les poings fermés et vous ne riez pas. Et vous souriez quand vous êtes détendu. Le sourire s'accentue avec le rire. Et quelqu'un qui est très tendu, vous essayez de le faire sourire et qui commence, il se détend. C'est très utile pour dormir le soir, pour dormir quand on n'arrive pas à dormir, qu'on est trop tendu. Essayez de sourire. Vraiment, pas un sourire bête, artificiel, n'est-ce pas ? Pensez à quelque chose qui vous fait sourire. Alors ça vous détend. La cause formelle. Vous voyez, le philosophe recherche les causes. Alors il y a la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause finale. Et au-dessus ou pas au-dessus, mais en plus de cela, il y a la cause exemplaire. Ça, Il faut arriver dès le début et très vite à comprendre ce que c'est. C'est Aristote qui a découvert ça en face de Platon. La recherche, la cause matérielle. En quoi est la chose ? C'est la cause matérielle. Ce qu'est cette réalité, cause formelle, d'où elle vient, cause efficiente, en vue de quoi elle se fait. Et toute la structure de la philosophie réaliste, c'est de regarder dans une réalité en se posant ces questions. Et lorsqu'il s'agit de la métaphysique, on pose que deux questions. Parce que en quoi est l'être, hein, chercher, en quoi est l'être ? Il est en l'être. En quoi est l'être ? L'être est au-dessus de la matière. La matière, c'est uniquement une réalité qui devient. Son être, c'est le devenir, la matière. C'est pour ça qu'un être se matérialise, il n'y a plus que le devenir. Une civilisation qui se matérialise, il n'y a plus que l'histoire, il n'y a plus que le devenir. Parce que la cause matérielle, c'est le devenir. Quand vous voyez une chose qui change, oui, détecter que c'est sa matière. En quoi est cette chose ? Ce qu'est cette chose ? Alors, ça, c'est cette détermination. Et cette détermination, c'est le tiesti grec. Tiesti. En quoi ? Non, ce qu'est la chose. En quoi est la chose ? Ce qu'est la chose. Notre cause matérielle, c'est notre corps. En quoi notre âme existe ? Elle existe dans notre corps. Notre cause formelle, c'est notre âme. Notre cause efficience, c'est celui qui nous donne l'âme. Dieu. La cause finale, quel est le but ? L'homme et pourquoi ? Pourquoi existe-t-il ? Pourquoi vit-il ? Et le philosophe recherche les causes. Donc la métaphysique recherche les causes de l'être. Il n'y a pas de cause matérielle de l'être. Il y a une cause formelle de l'être. De l'être comme être. Pas en tant qu'il devient. Parce que, en tant qu'il devient, le devenir est une manière d'être. C'est pas l'être, c'est une manière d'être. Une manière d'être qui est un être qui n'est jamais totalement lui-même. Il devient. Il est en mouvement. On cherche à le saisir, c'est déjà plus ça. Il y a des réalités qui n'existent que dans le devenir. Ils n'ont pas d'âme spirituelle. Notre âme, elle existera après que notre âme aura quitté notre corps. Donc elle a une vie pour elle-même. Je n'ai pas l'expérience directe, mais quand je pense, quand je réfléchis sur des réalités profondes, quand je pense en métaphysique, au niveau de l'être, il n'y a plus que la substance et la fin. Puisque la matière est source du devenir, et le devenir n'est pas l'être. Donc, il n'y a que la forme et la finalité qui est. C'est peut-être cela qui est le plus important à bien saisir. En métaphysique, vous n'avez que deux causes propres de l'être. La cause propre selon la détermination. C'est la substance. L'ousia en grec, la substance. C'est la détermination. Et ça répond à l'interrogation qu'est-ce ? Ti esti, qu'est-ce ? Et vous avez en métaphysique l'autre recherche, la cause finale. En vue de quoi cette réalité existe ? En vue de quoi vous existez ? Vous posez la question, en vue de quoi vous existez ? Pourquoi vous existez ? C'est capital. Le devenir n'est pas métaphysique. Le devenir revient toujours à la cause matérielle et non pas à l'être. L'être est au-delà du devenir. Vous voyez, c'est très important pour comprendre que la métaphysique n'est pas une histoire. Parce que très facilement, on confond la philosophie et l'histoire de la philosophie. Quand vous pensez et réfléchissez sur l'histoire de la philosophie, vous essayez de saisir comment un système philosophique, une pensée philosophique, existe en fonction de tel autre, parce que ce philosophe a eu des professeurs, il a eu des maîtres, et il a réagi à la pensée de ses maîtres. Au contraire, il a suivi et cherché à connaître ce que son maître disait. Vous voyez, il y a toujours deux réactions quand on écoute, quand on suit un cours, en disant « Ah, il affirme ça, mais ça, c'est pas vrai. » Alors, on réagit. Un cours doit faire réagir votre intelligence. Vous savez, quand vous piquez un animal, il réagit. Un cours doit piquer votre intelligence et votre intelligence doit réagir. Alors, vous réagissez de manière en disant « Oui, c'est bien ça, c'est vrai. » Ou vous réagissez en disant « Ah, mais c'est pas ça. Ça, je comprends pas. » Et puis, il y a la troisième façon, mollasse, de ne pas réagir. Je suis le cours parce que je dois le suivre. Peu importe ce qu'il dit, je suis présent matériellement. C'est trop difficile, je n'arrive pas à suivre. Alors vous voyez, il y a trois façons de suivre le cours. Alors il y en a une bonne, parce que dire « je ne comprends rien, pas la peine », au début, on ne comprend rien. On a tous eu cette période de ne pas comprendre la philosophie, de voir où ça dépasse. Je ne me suis jamais posé cette question. Et du reste, pour ça qu'on vous fait entrer en métaphysique, parce que vous n'avez jamais posé la question. Mais la question se pose, qu'est-ce que vous êtes ? Parce que le philosophe, au fond, un seul être l'intéresse immédiatement, l'homme, lui-même. Et puis, cet être-là va lui permettre de poser l'être suprême, l'être premier, Dieu. Je pose Dieu en fonction de moi-même, au point de vue philosophique. Tandis qu'au point de vue de la foi, vous posez Dieu en raison que Dieu vient vers vous. Vous voyez, c'est pas la même chose. en fonction que Dieu vient vers vous, que Dieu vous parle. Le croyant adhère à la parole de Dieu. Il écoute Dieu. Dieu qui lui parle. Abraham, pour nous. La révélation commence avec Abraham. Dieu a parlé. Et Dieu a parlé d'une façon plénière avec le Christ. Puisque c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et la parole du Christ est à la fois humaine et divine. Et ma foi chrétienne adhère à la personne du Christ. Vous voyez, la différence de connaissance de Dieu pour le philosophe qui regarde l'homme, qui essaie de comprendre l'homme le mieux possible et qui voit les limites de l'homme. Et en même temps, il y a dans l'homme quelque chose, il existe. Il peut dire « je suis ». Et quand il dit « je suis », il montre qu'il y a en lui quelque chose d'irréductible à tous les autres qui disent « je suis ». Votre « je suis » est unique. Il est unique, mais il est l'écho d'un premier « je suis » Dieu. Dieu a dit « je suis » et vous pouvez dire « je suis ». Votre « je suis » est l'écho de celui de Dieu et il est très différent de celui de Dieu. Il est totalement différent. Mais le philosophe part toujours du jugement d'existence « je suis ». Il est. C'est le verbe être qui le regarde. Et il essaie de tout regarder sous ce point de vue de l'être. Sous ce point de vue de l'être, la cause formelle, ce qu'est la réalité, c'est la substance. Ce noyau premier qui me montre ce qu'est cette réalité. Cette réalité, elle est déterminée de telle façon dans son être. Et la substance, c'est la détermination de la réalité dans son être. Cette détermination première, fondamentale, c'est sa substance. Tandis qu'au contraire, sa finalité, c'est ce qu'il désire être. C'est ce vers quoi il tend. C'est ce qui l'attire pour qu'il soit parfaitement lui-même. C'est l'être qui désire atteindre la perfection. Alors l'être qui désire atteindre la perfection, il atteint la perfection dans sa fin, dans son bien. Donc, il se dépasse. Tandis qu'au contraire, l'être dans sa substance, c'est l'immanence. C'est lui qui est déterminé de telle manière. Il est ceci. Qui es-tu ? Je suis homme. Je ne suis pas araignée. Je suis homme. Je détermine ma substance. Et homme, c'est une nature à la fois matérielle, le corps et spirituel l'âme. Ce que dit d'une façon très juste les néoplatoniciens, l'homme, il est l'horizon entre le monde matériel et le monde spirituel. Et il y a toujours en lui une aspiration vers le spirituel et un poids vers le matériel. Il est toujours, toujours avec ces deux mouvements, ce mouvement vers le haut, donc in altum, et le mouvement vers le bas, la matière, son corps. C'est un être qui est complexe. Il n'est pas simple. Je peux avoir des nostalgies de simplicité, mais je ne suis pas un être simple. Si j'étais un être simple, je voudrais être un être purement spirituel, ce qui n'est pas vrai. J'ai mon corps qui me met au niveau de toutes les réalités corporelles, de toutes les réalités physiques. C'est pour ça qu'en moi, il y a la substance, il y a ma nature. Hein ? La nature humaine, qu'est-ce qu'elle est ? Âme et corps. La substance de l'homme, c'est premièrement son âme. Et son corps, en tant qu'il est informé par l'âme, en tant qu'il est lié à l'âme, de cette façon que l'âme le détermine. Et c'est vrai, mon corps fait partie de ce que je suis. Je ne peux pas me définir uniquement par mon âme. Et je définis ma substance comme étant premièrement mon âme et en second lieu une substance très particulière, celle de mon corps. Elle est comme le prolongement de mon âme. Et c'est vrai, si on vous touche et qu'on vous fait mal, vous direz « aïe, aïe », c'est votre âme qui crie ça. Par votre corps, on a touché votre âme. On n'a jamais touché votre âme directement. On le touche par le corps. Par votre corps, vous êtes un être sensible. Vous êtes un être qui fait partie d'un groupe, alors que votre âme, elle est solitaire. Elle réclame la solitude pour être elle-même. Quand vous êtes baigné pendant un certain temps dans la communauté, vous avez besoin de vous retirer de la communauté, dire « Ouf, je suis seul, je suis moi-même. » Alors qu'on est saisi par tous les appels extérieurs. C'est très complexe, l'homme. Donc, la substance, c'est votre âme. En tant qu'elle est principe d'être. La substance est principe d'être. Principe d'autonomie. Et votre substance, elle vous fait comprendre ce que vous désirez, ce qui est vous-même, par le désir, ce qui est votre être, par le désir, vous tendez vers cela. Un être finalisé est un être tendu vers sa fin, vers sa perfection. Un être qui n'est pas finalisé, qui est simplement lui-même, est un être qui très facilement ne sait pas où il va. Mouton de Panurge, il suit. La plupart des hommes, hélas, sont comme ça. Ils suivent les différents mouvements politiques. De droite ou de gauche, ils suivent. À ce moment-là, vous voyez bien, l'homme, quant à son âme, n'a pas grande finalité. Sa finalité, c'est d'être lui-même un partie d'un tout. Ce n'est pas une vraie finalité, c'est un conditionnement. C'est vrai, l'homme, dans la multitude, est homme, mais il est conditionné d'une façon terrible. Et par le fait même, c'est plus lui. Donc la métaphysique recherche avant tout la substance et l'acte. Nous posons ensuite la question, comment existe-t-il l'homme ? Il existe toujours dans son corps, ici-bas. Je ne fais pas la métaphysique de l'au-delà, puisque je n'en ai pas l'expérience. Je sais que ça existe, mais je n'ai pas l'expérience. Donc je ne fais pas la métaphysique, je fais la métaphysique de ce que je connais. Ma manière d'être, c'est toujours d'être uni à mon corps. Et je suis uni à mon corps depuis ma conception, depuis ma naissance, je suis toujours uni à mon corps. Et je suis uni à mon corps d'une manière complaisante, en disant, ça fait partie de ma nature humaine. Mon corps, je le sais bien, il ne correspond pas toujours à mon âme. J'ai des désirs extraordinaires, très spirituels, et mon corps est là. Mon corps est heureux quand il a faim de pouvoir manger. Mon âme, elle s'en fiche. C'est vrai, mon âme spirituelle, ça prend du temps de manger. Ça prend du temps. Puis ça m'alourdit. Alors on voudrait avoir un corps aérien. Hein, oui. Puis on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'avoir un corps aérien, ça ne peut pas bien vivre. Et alors si mon corps est malade, mon âme en pâtit. Et donc, par expérience, je ferai attention de soigner mon corps. Mon corps vieillit. Parce que il vit depuis un certain temps. Mon âme ne vieillit pas. C'est un drôle de ménage. Un vieux corps dans une âme qui aspire à une jeunesse éternelle. Plus j'avance, plus mon corps vieillit et est lourd, et il est dans le temps, plus mon âme est jeune, aspire à cette jeunesse éternelle. Elle accepte ce sort de la terre, elle accepte le vieillissement du corps, c'est mon vieillissement, le vieillissement du corps, c'est mon vieillissement. Mais ce n'est pas le vieillissement de mon âme. C'est le vieillissement du composé à mes corps, oui, oui. Mais mon âme aspire à quelque chose qui n'est pas lié à ce vieillissement. Mon âme ne vieillit pas. Mon âme spirituelle ne vieillit pas. Mon âme intellectuelle, mon âme spirituelle en aimant ne vieillit pas. Mais mon âme liée à mon corps vieillit. Je subis le vieillissement de mon corps et je l'accepte, je le reconnais. Il y avait chez... J'ai bien connu le bon père Certilange qui voulait toujours être jeune. Et il le disait, je ne vieillis pas, je veux être jeune. C'est pas vrai. Et nous qui subissions ses cours, on voyait qu'il vieillissait. Et donc il avait beau dire, je ne vieillis pas, on lui dit, vous vieillissez, forcément. Acceptez de vieillir, parce que vous êtes dans votre corps et reconnaissez que plus votre corps vieillit, plus vous aspirez à une jeunesse éternelle. Quand on est très jeune, on n'aspire pas à une jeunesse éternelle. On est jeune dans son corps, c'est pas gênant. Quand le corps commence à vieillir, vous aspirez intimement à une jeunesse éternelle. Oui. C'est pour ça qu'on dit ordinairement qu'on est à partir de 45 ans, on devient platonicien. Parce qu'on désire cette jeunesse éternelle. L'âme en dehors du corps. Le corps est le tombeau de l'âme. C'est vrai. Quand vous regardez le Saint-Père, on peut dire que son corps est le tombeau de son âme. Il garde une âme jeune, merveilleusement jeune, doux in altum, et son corps est lourd, vieilli. Alors, on doit rester aristotélicien jusqu'à la fin de sa vie, tout en reconnaissant que le corps vieillit, mais l'âme ne vieillit pas. L'âme a en elle la possibilité de tout le temps garder sa jeunesse, mais elle accepte le vieillissement de son corps. C'est un drôle de ménage alors. Le vieillissement du corps et la jeunesse de l'âme. Oui, il y a un équilibre différent que l'équilibre du jeune. Oui, la jeunesse du corps n'embarrasse pas la jeunesse de l'âme. Tandis que pour le vieillard, la vieillesse du corps embarrasse la jeunesse de l'âme. Il est obligé de tenir compte de la vieillesse du corps. La distinction de l'âme et du corps est de plus en plus nette. Parce que par le corps, je subis la vieillesse. Par l'âme, je suis vainqueur de la vieillesse. Et donc, il y a deux mouvements différents et qui sont normaux. Ces deux mouvements différents, d'accepter la vieillesse du corps, on doit la reconnaître. Autrement, on ne serait pas réaliste. Et la jeunesse de l'âme, qui se fait sentir toujours davantage. L'âme n'est pas pleinement en harmonie avec le corps. Voyez, puisqu'elle a une finalité naturelle qui est distincte de celle du corps. Par mon âme, je ne connaîtrai pas la mort. Par mon corps, je connaîtrai la mort. Et ça fait quand même une très grande différence. cette dualité de l'âme et du corps est dépassée par la personne. Ma personne humaine, c'est mon âme et mon corps. C'est ce que j'appellerais comment je vis. C'est le pose, le comment. Comment je vis. Mon être, il est toujours de mon âme. C'est par mon âme que je suis. Et mon corps, vieille carcasse, elle existe grâce à mon âme. Et il vit grâce à mon âme. Donc toujours je respecterai la distinction des deux. Mais ma vie personnelle, elle est le lien du corps et de l'âme. Je n'ai pas deux vies. Ma vie personnelle sur la terre implique ce lien essentiel, substantiel de l'âme et du corps. La personne, elle est faite de l'âme et du corps. Et de cette harmonie profonde dans la distinction. Celui qui ne fait plus la distinction, celui-là, alors il devient l'esclave de son corps. Mais celui qui fait la distinction, il n'est pas esclave de son corps, mais il essaie de découvrir l'harmonie différente, l'union différente, le côté de la personne différente quand on a 30 ans, quand on en a 40, quand on a 70. La différence varie. La personne humaine, elle se développe dans le temps. Mon âme est au-dessus du temps. Mais la personne humaine se développe dans le temps. Donc vous voyez, la personne, c'est quelque chose d'unique. C'est le corps et mon âme. La personne d'un vieillard ou la personne d'un jeune est différente. Et le vieillard qui vieillit sait ce qu'il était quand il était jeune. Il y a une mémoire de l'âme et du corps à sa vie propre. Et sa vie propre implique tout ce passé qui est vivant en lui, dans sa personne actuelle. Alors, nous allons étudier ensemble le problème de la personne.